franceinter.fr.
Pop, etc. Avec Valley sur France Inter.
Il y a 40 ans, il y a eu une nouvelle vague de chanteurs français qui a bougé les lignes de la variété française. Ils se nommaient Le Forestier, Chedid, Souchon, Simon. 30 ans plus tard, à l'aube des années 2000, une poignée d'artistes français a attiré l'attention suffisamment pour qu'on parle d'une nouvelle chanson française. En totale rupture de ce qui se passait au même moment à la Starac, c'était Benabar, Kali, Mathieu Bogert, Biolay, Jeanne Charal ou Albin de la Simone. J'ai oublié quelqu'un. Vincent Delerme. Vincent Delerme, mais je reviens sur son premier album, et pas que ce soir, dans Pop, etc., avec lui, avec Vincent Delerme. Bonsoir.
Bonsoir, Valy.
Merci d'être venu.
Bah, avec plaisir.
C'est super
c'est hyper sympa de ma part.
De votre part, absolument, et de ma part de vous avoir invité. Hein.
Exactement.
Et sous l'œil bienveillant, une fois n'est pas coutume, Christophe Comte.
On va voir. Hein, ça.
C'est ça, on sait rien. Hein. Comment allez-vous, Christophe?
Très bien, et
pas,
vous-même?
Pas trop de billets durs ce soir, mais on ne sait pas, Marc.
Non, il n'y a pas de raison.
Non, il n'y a pas de raison, on est entre amis ici.
Oui.
L'album Vincent Delerme est sorti en avril 2002. Il s'ouvrait avec une chanson qui reste emblématique du style Delerme. Très bonne soirée sur France Inter dans Pop, etc.
On écoute du chant grégorien, elle parle à peine et moi je dis rien. On a une relation comme ça, Fanny Ardant. Et moi je passe la soirée avec Sylvain pendant qu'elle mate le papier peint. On est restés indépendants, moi et Fanny Ardant. Elle est posée sur l'étagère entre un bouquin d'Eric Holder, un chandelier blanc Ikea et une carte postale de Maria. Elle est toujours toute noire et blanche, elle ne dit plus vivement dimanche depuis que je la traîne chez mes parents. Tous les week-ends, Fanny Ardant. Pas des filles de Jussieu, elle parle pas trop de Depardieu. Oui, on évite ces sujets-là, Fanny Ardant. Et moi, il y a un truc dans son regard qui me reproche de rentrer trop tard. Elle voudrait que je sois là tout le temps. Évidemment, Fanny Ardant, elle est posée sur l'étagère entre un bouquin d'Eric Holder, un chandelier blanc Ikea et une carte postale de Maria. Elle est toujours toute noire et blanche, elle ne dit plus vivement dimanche depuis que je la traîne chez mes parents. Tous les week-ends, Fanny Ardant. Entre un bouquin d'Eric Holder, un chandelier blanc Ikea et une carte postale de Maria. Elle est toujours toute noire et blanche, elle ne dit plus vivement dimanche depuis que je la traîne chez mes parents. Tous les week-ends, Fanny Ardant. On écoute du chant grégorien, elle parle à peine et moi je dis rien. On a une relation comme ça, Fanny Ardant et moi. Fanny Ardant et moi. Fanny Ardant et moi. Fanny Ardant et moi.
Fanny Ardant et moi sur France Inter. Ce soir, on revient sur l'album de Vincent Delerme, sorti en 2002 avec son auteur. Christophe Comte, amoureux de la chanson française, est aussi avec nous. Alors Christophe, les un rock, Christophe Comte en 2002. Pour ou contre Delerme?
Alors, c'est assez particulier parce que, même si je représente mon équipe, les Arancs étaient très pour Vincent Delerme et moi, j'étais assez contre, en fait. Mais a priori, hein, comme beaucoup de gens, je n'étais pas contre violemment. Hein, j'étais juste, je pense, un peu agacé comme souvent, par une espèce comme ça de phénomène un peu immédiat qui remporte un succès assez phénoménal. Et surtout, avec évidemment tout ce qu'on a pu reprocher plus tard à Vincent, le côté vraiment très patrimonial de la bonne chanson française, c'est-à-dire Télérama, tous les gens qui voilà. Et les Inrocks, bizarrement, à travers Arnaud Vivian notamment.
Il a écrit vraiment un article dithyrambique.
Voilà, et moi, je n'avais pas vraiment entendu de l'herbe en dehors de cette chanson-là et une ou deux autres. Et je n'avais pas écouté ce premier album. Bien avant, en fait, je l'ai écouté au moment du deuxième. Je peux vous raconter pourquoi très rapidement. Parce qu'en fait, Arnaud Vivian, qui suivait donc Vincent Delerme, a continué à le suivre à tel point qu'il a suivi tout l'enregistrement du deuxième album de
Kensington Square.
Et donc, arrivé au moment de faire l'article, il est venu me voir, il m'a dit « Je suis devenu tellement pote avec Delerme que ce n'est pas très déontologique de faire un article. » Donc je te propose de le faire. Et moi, j'ai dit, mais moi, j'aime pas de l'herbe. Et donc, il m'a dit, écoute cet album et à mon avis, il va te plaire. Et je suis rentré chez moi, j'ai écouté ce disque et j'étais totalement bluffé par à la fois la qualité musicale du disque, par les textes, parce que j'étais vraiment passé à côté de l'intelligence du bonhomme. Et on s'est rencontrés donc grâce à Vivian. Et j'ai fait le chemin à rebours et je suis devenu, après ça, un des avocats fervent de Vincent.
Auprès de moi même, souvenez-vous,
voilà, j'ai
Vincent.
J'ai pu d'ailleurs exercer ces plaidoiries ici même, notamment à l'époque de je ne sais plus quel album d'ailleurs, peut-être Les Piqueurs d'araignées ou un des suivants.
Ouais.
Voilà, donc moi je suis venu vraiment à Delerme, vraiment pas...
Contre votre gré.
Ouais, mais c'est, souvent c'est un peu con, mais on est comme ça sur des présuppositions par rapport à plein de gens. Et je trouve moi très bizarre et très douloureux maintenant que plein de gens continuent à avoir, enfin dans le milieu un peu rock et tout ça, à avoir ces présuppositions-là sur Vincent, en le comparant ou en le mettant dans la même catégorie que d'autres gens qui n'ont absolument rien à voir avec lui. Pour ne pas les citer, Benabar, Kali, enfin, c'est un non-sens pour moi.
Alors, c'était pas gagné quand même, les Inrocks.
D'ailleurs, c'était miraculeux. Arnaud Vivian, effectivement, moi j'étais très... Quand j'ai sorti le premier disque, on en parlait il n'y a pas longtemps avec Christophe, c'était une époque où j'étais ultra... intéressé par par les Inrocks, ça faisait pas si longtemps que ça que c'était passé en hebdo, mais enfin en tout cas j'adorais ça, mais vraiment j'étais convaincu que c'était pas du tout pour eux, quoi. Et du coup le fait qu'il y ait un tout petit truc, peut-être un peu un rock quelque part très très caché dans ma musique, et puis suinté et qu'Arnaud Vivian ait mis un petit doigt dessus, c'était étonnant parce qu'à côté de ça j'avais voulu faire un disque qui était très chanson française. Pareil, c'est un truc qu'on a évoqué récemment avec Christophe, mais c'était cette idée qu'il y avait eu beaucoup dans la période précédente, les années 90, des disques qui se targuaient d'être à la fois chanson et rock. Et il y avait beaucoup le sticker à la croisée de la pop et de la chanson. Sous-entendu, si la chanson ça vous fait chier, vous allez aimer ça parce que c'est un peu pop. Et inversement, et c'était jamais concluant parce que quand t'aimes vraiment la pop, t'as pas. Voilà. Et du coup, je m'étais fixé comme ligne sur le premier disque. Ok, j'adore Tinder Sticks, Divine Comedy et tout, mais ce qui doit, si je veux être honnête avec moi, il faut que je me place sous une pancarte chanson française. Il y a même pas, on a entendu Fanny Ardant qui était peut-être la chanson la plus rapide de l'album. Il y a même pas de
basse batterie dessus. Vous l'avez écrit quand justement, Fanny Ardant et moi.
Ça, c'est des chansons. Tes parents, Fanny Ardant, c'est des chansons qui étaient faites pour aller chercher des gens dans des pizzerias, dans des trucs, dans des boîtes à chansons que je faisais dans les années précédentes, tu vois, quand j'étais étudiant.
Oui, parce que c'est vraiment une matrice de votre style, Vincent Delerme, qui ne vous a pas vraiment quitté, je trouve. Notamment le name-dropping, les références, le cinéma. Alors, on se demande toujours, qu'est-ce que ça voulait dire? Est-ce que c'était naïf, provincial? Est-ce que c'était justement pour attirer un certain public?
Sûrement. Au début, quand on commence, on a envie de se faire remarquer, de faire le malin, la façon de chanter. C'est vrai que... C'est quand même très spécial. À chaque fois que je réentends les chansons du premier album, j'ai presque plus l'impression d'entendre Didier Gustin ou Laurent Gérard que moi. Mais en même temps, à l'époque, c'était... Je crois que là, en réentendant, je me rendais compte qu'il y avait un truc de Miossec aussi un peu mal digéré. Parce que finalement, le timbre de Miossec, c'était un truc qui était assez décomplexant. Il avait une manière de chanter un peu comme ça, aux chausse-pieds. Après, non, les noms propres, c'est ça. Par contre, c'était pas tellement pour me faire remarquer, c'était un truc naturel. J'aimais bien ça. tu as cité Yves Simon, chez des gens comme ça, il y avait beaucoup ça. Donc voilà.
Et on a accusé évidemment d'être bobo, etc. Parce que c'est vrai, dans les parents qu'on va écouter dans quelques instants, il y a Télérama, il y a France Inter, il y a tout dedans. Mais Christophe Comte, c'est mine de rien universel ou pas, ces chansons?
Évidemment, et en plus...
Pour les gens qui ne savent pas leur référence.
Moi, je trouve que c'est avoir beaucoup d'honnêteté que de parler de ce qu'on connaît. C'est-à-dire qu'on voit tellement de gens aujourd'hui qui sont dans le travestissement total, qui prétendent parler de la banlieue alors qu'ils n'ont jamais franchi le périph', qui sont dans un truc totalement faux. Et moi, ce que j'ai trouvé brillant chez Delerme, c'est d'arriver à sublimer ces choses-là, à faire en sorte que chacune de ces chansons soit quand même une photographie exactement comme l'étaient les films de Truffaut dans les années 60 ou Romère ou des gens comme ça. Alors après, je pense que les gens qui n'aiment pas Vincent n'aiment pas non plus aussi la Nouvelle Vague, n'aiment pas le cinéma d'auteur, n'aiment pas des pléchins. On peut, enfin moi ça ne me dérange pas, enfin, je veux dire, on peut préférer Luc Besson, ce genre de gens. Moi je me retrouve totalement dans cet univers-là parce que je ne trouve pas qu'il a un regard ni en hauteur ni complaisant. Il y a des chansons de Vincent qui sont... Enfin, notamment sur, je crois que c'est sur 15 chansons, enfin la chanson qui s'appelle « Du sépia plein les doigts » par exemple, que j'adore.
J'adore cet album aussi, 15 chansons,
j'avoue. Qui est une chanson vraiment pour le coup qui désamorce totalement toutes les accusations qu'on a pu faire de lui et qui le fait avec une telle intelligence et un tel talent que je ne comprends pas qu'on puisse continuer à avoir ce genre d'accusations débiles.
Alors Delerme fait du name dropping comme je l'appelle, mais il fait aussi de la stégonographie, c'est-à-dire un message dans un autre message, un peu la George Sand et Alfred de Musset. Oups, c'est moi qui fais du name dropping maintenant. La vipère du Gabon sur France Inter.
À l'entrée du zoo, tu sais, j'attends des jumeaux. J'espère qu'il y aura des éléphants. Et ta mère, elle est au courant. Ça, c'est des genres de wapiti. Pour l'instant, je vais encore rien dire. Et devant la cage des gibbons. Ah bon? Ils doivent être planqués dans un coin. Et Mathieu, lui, il le vit bien. Putain, j'ai horreur des vautours. Au début, il était pas pour. C'est pas un vautour, c'est un condor des Cévennes. Même s'il se casse, je les garde quand même. Oui, enfin, c'est quand même un tout petit peu pareil, les vautours, les faucons. Ah bon? Espèce protégée au Pérou. Et toi, sinon, alors, t'en es où? Dans une allée du vivarium. Tu sors toujours avec cette conne. Les iguanes, c'est ultra bizarre. Ça me fait super plaisir de te voir. Devant la vipère du Gabon. Ah bon? Ah bon?
La vipère du Gabon dans Pop, etc. Vincent Delerme, quand avez-vous su que votre voix était un atout?
Ça viendra peut-être
demain. C'était pas
ça.
Évident au départ avec cet album, si je peux me permettre.
Oui, en même temps, c'est très, très étrange. La chanson, c'est un domaine où ça arrive de temps en temps. J'ai l'impression que les gens, parfois, s'attachent à une personne à travers ce qui se... dégage de la chanson. C'est un domaine où finalement ça fonctionne presque plus sur le même modèle que pour quelle raison on devient pote avec quelqu'un ou pas. C'est jamais pour une sorte d'admiration ou rarement une admiration pure d'une belle voix, d'une belle attitude. C'est est-ce que le mec vous revient ou pas, quoi. Donc ça joue sur des trucs un peu étranges qui font que il y a aussi la permission en chanson de chanter comme Renaud, comme Moustaki, comme des gens comme ça. Et en l'occurrence, pour des gens comme ça, dont peut-être j'espère faire partie, il y a cette idée que c'est une sorte de tout avec, bon, ça voit qui est un peu bizarre, qui est un peu fausse par moment, mais ça fait partie d'une sorte de truc, de package global, quoi, d'un personnage.
Oui, parce que c'est quand même, c'est ça qui m'a arrêtée. Je le dis la vérité, je sais qu'il y a beaucoup de gens, votre voix agacée, ou on dit, mon Dieu, il ne sait pas chanter. Et je pense qu'à l'époque, vous ne preniez pas de cours. Peut-être on a dit, peut-être il faut que vous preniez des cours de chant. Est-ce que vous avez fini par le faire? Parce qu'aujourd'hui, vous avez perdu tout ça.
En fait, au début, déjà, quand j'ai enregistré ce disque, je n'avais jamais chanté en studio. Je n'ai pas du tout une culture et je continue de ne pas être quelqu'un qui... J'ai pas mal de collègues qui, vraiment, une semaine sur deux, se retrouvent en studio. Je me souviens d'une époque où je voyais beaucoup Keren Ann qui allait dans les studios d'EMI. Franchement, toutes les semaines, elle enregistrait des trucs. Elle a une sorte de technique de ça, d'habitude de ça. Et moi, mon lieu, c'était quand même plutôt la scène. Et puis, on va en studio parce qu'il y a un album à faire. Bon, ça m'a un petit peu changé, mais quand même, globalement, je suis quand même toujours un peu dans ça. Donc, c'était pour ça. Après, ces idées de progrès, ça me fait toujours penser à... Je crois que c'est une phrase de Coluche qui dit, il paraît que Sylvie Vartan a fait des progrès, et dit, moi j'irai la voir à la fin quand elle aura fini tous ses progrès.
Ouais. Alors quand l'album est sorti en 2002, votre premier album, c'était le Starac qui intéressait vraiment des hordes de gens, et c'était assez rigolo parce que d'un côté, il y avait des autocompositeurs interprètes comme vous, comme Chéral, comme Bogert, tous ces gens, et les interprètes de l'autre, c'est pour ça que je parle de la voix. Est-ce que ça a changé quelque chose? Est-ce que c'était bien que ces deux univers rencontre ou peut-être
ça a joué sûrement pour le mouvement de tous ces gens, Kali, Benabar et moi, Sanseverino, c'est qu'il y avait à la fois une tradition un peu de chanteuses qui braillaient avant, la génération Lara Fabian, Céline Dion, chanteuses québécoises. Après, il y a effectivement la Starac et tout ça qui débarque, donc sûrement ça a été une aubaine pour nous parce qu'on a servi de contrepoint à ce truc-là qui n'était pas très défendable dans l'absolu, mais surtout qui était effectivement l'inverse, quoi, où on apprend d'abord une technique avant de savoir ce qu'on a à défendre comme objet, quoi. Alors que finalement, ce qui comptait le plus pour les gens de chansons, enfin qui sont apparus dans ma génération, c'était sûrement d'avoir un truc à dire, plus ou moins intéressant, mais en tout cas de partir de là et après de le chanter comme on peut, certains très bien, d'autres moins bien, mais c'était pas le fond du problème. Alors que effectivement, Nouvelle Star, c'est une école de très bien chanter. Et peut-être plus tard, si tu sais très bien chanter, on cherchera un parolier et un mec qui te fera des chansons.
C'est vrai. Et puis, c'était à l'époque le vrai début de la crise du disque, entre guillemets. Et puis, c'était à cette époque-là, on signait le manifeste pour défendre la diversité musicale. Donc, c'était une période assez particulière, je ne sais pas. Sans doute, vous vous souvenez de ça.
De toute façon, c'est le moment où c'est apparu. Là, évidemment que quand il y a un phénomène comme ça, c'est comme les rues où il y a plusieurs restaurants, quoi. Ça fait plus de monde que la rue où il n'y en a qu'un seul. Mais il y avait quand même un vrai truc qui était un peu gênant pour quelqu'un comme moi qui avait beaucoup écouté les années 90, la génération d'Alcan, le premier Julien Bert, des albums de Mendelssohn et tout ça. Le Abon de La Vipère du Gabon, c'est un peu un truc qui était emprunté au premier album de Mendelssohn. Il y avait une chanson qui disait « Alors j'ai dit Abon ». Et il y avait comme ça une sorte de dette que j'avais en tête et qui était... Il se trouve que depuis... Catherine a existé beaucoup, Dominique a maintenant une victoire de la musique et tout ça, mais c'était un peu gênant d'être si présent après ces gens qui, moi, m'avaient influencé et qui étaient un peu moins là, quoi.
En parlant de voix, il y en a une qui résonne dans votre panthéon, Vincent Delerme, celle de Morrissey. Take me out tonight, where there's music and there's people. Driving in your car, I never, never want to go home, because I haven't got one anymore. Take me out tonight, because I want to see people and I want to see life. Driving car. Oh, please don't drop me home, because it's not my home, it's their home, and I'm welcome no more. And if a double There's a light that never goes out, extrait bien sûr des Smiths, The Queen is Dead en 1986. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de voir Johnny Marr à Rock en scène. Il a chanté la chanson et il a assuré pas mal Christophe Comte. Même
je l'ai raté moi, mais bon.
Mais oui, mais je pensais vous voir parce que vous étiez ce jour-là.
Mais oui, mais j'étais ailleurs en fait.
En tout cas, Vincent Delerm.
J'étais au bar, en fait.
Oh oui, comme tous les journalistes de musique, évidemment, ils passent tout le temps au bar.
Mais moi, je suis honnête, je le reconnais.
Ben oui, voilà. Bon, Johnny Marr, oui, et moi aussi, ouais, The Smiths, Vincent Delerm, vous aviez un groupe à cette époque, ou peut-être un peu plus
j'avais
tard.
J'avais surtout des t-shirts des Smiths, surtout, ouais. Comme tout le monde, mais c'est toujours un peu mystérieux le truc quand t'es... Moi, j'étais dans un lycée de province, justement, on lisait un peu les Inrecuptibles, donc on se sentait un peu plus malin que les autres, et il y avait une manière de revendiquer les Smiths comme ça, et un plaisir à aimer ça, un peu snob, parce qu'on voyait bien qu'autour de nous, ça... Tout le monde ne connaissait pas. Quoi. Puis après, c'est le détail de la relation de Johnny Marr, Morrissey. Enfin, il y a eu d'autres histoires comme ça, plein d'histoires dans l'histoire de la pop musique. Mais on essaye de... Je sais pas, on a envie de savoir exactement ce que l'un pense de l'autre. Et puis en même temps, c'est fuyant. Quoi. C'est une histoire qu'on ne connaîtra jamais vraiment complètement. Mais on est fasciné par ça. Puis d'ailleurs, il n'y a peut-être pas tant d'histoires que ça. Finalement, quand on apprend la vraie histoire, on se rend compte que des fois, ce genre de couple peut être un peu étranger l'un à l'autre, plus qu'on ne croit. Mais c'est hyper fascinant, ouais.
Alors, flashback encore, Vincent Delerm, vous avez fait votre maîtrise à la fac sur Truffaut, on en a beaucoup parlé, vous vous intéressez au théâtre. Pourquoi avez-vous choisi la chanson au départ? Parce que je sais que vous revenez sur la scène, on va en parler, mais pourquoi avez-vous choisi la chanson manière de vous exprimer en premier?
Parce que je crois que c'est vraiment en tant que... C'était ce qui me plaisait le plus chez les autres. Enfin, c'était ça. C'était le biais qui me permettait aussi justement d'avoir un petit peu un truc qui se passe sur scène comme au théâtre, d'avoir aussi un peu un objet figé qui est un disque, comme on sort un bouquin sans être là et puis les gens peuvent l'écouter sans vous. Enfin, ça réunissait pas mal de choses et puis ça permettait de dire... rapidement des choses, il me semblait. J'aimais bien ça. J'ai passé beaucoup de temps quand j'étais même enfant à écouter des disques en regardant la pochette, la tête du mec sur la pochette en me disant bah, « s'il chante ça, c'est qu'il doit penser ça ». Enfin, c'est un domaine où on fantasme beaucoup et ça rejoint ce qu'on se disait tout à l'heure sur sûrement qu'il faut qu'il y ait une sorte d'empathie de la part du public pour un chanteur et qu'on peut pas aimer froidement un chanteur, on peut pas dire, voilà, c'est un truc que j'ai déjà dit souvent, mais on peut pas se dire je déteste le propos de Michel Sardou, mais quel talent il a. Enfin, c'est un truc global, quoi. Soit on adhère, soit on adhère pas. On peut pas voir le phénomène de Louis Ferdinand Céline en chanson, je crois.
Tes parents, ce sera peut-être des professeurs de lettres branchés sur France Inter et qui votent pour les Verts chez tes parents. Dans ce cas-là, y aura Télérama, un album sur Colette et le chauffage à 17. Mais tes parents, si ça tombe, aiment bien faire le tour du monde, aller dans les pays chauds et ramener des diapos. Pour Noël, si ça se trouve, j'aurai un bouquin sur le Louvre. Si ça se trouve, tes parents sont un tout petit peu chiants. J'suis prêt à tout, t'as accepté. Figaro, Madame ou Libé, j'suis prêt à faire des concessions. Manger de la cervelle de mouton, j'suis prêt à tout pour que ça passe. Caresser leur chien dégueulasse, supporter toute la Traviata et même regarder Thalassa. Mais tes parents, pourquoi pas, font du ski dans le Jura. Cinquantaine, ils s'éclatent à l'avant du 4x4. Si tes parents nous traînaient faire du golf au Touquet, peut-être que tes parents, on les verrait pas souvent. Mais tes parents, c'est probable, le samedi jouent au Scrabble. Ils viennent juste de s'inscrire dans la chorale de Rickvir. Tes parents au café commandent un Carpérier. Tes parents, c'est peut-être des gens à la retraite. J'suis prêt à tout, t'accepter. Figaro, Madame ou Libé, prêt à trahir mes convictions. Manger des huîtres au réveillon, j'suis prêt à tout pour que ça passe. Dire du mal du voisin d'en face, supporter les Opel Vectra et même regarder Thalassa. C'est peut-être des gens bien qui regardent les soirées spéciales Joe Dassin et puis qui disent bah non, tant pis, on fera la vaisselle demain matin. Avec ta mère qui veut toujours qu'on rapporte les restes de la blanquette quand on rentre le dimanche soir à la porte Champéret, et puis ton père qui me demande alors Vincent, quand est-ce que vous faites un disque? Je suis prêt à tout pour que ça passe. Caresser leur chien dégueulasse, ouvrir les boîtes de canigou. Chloé m'a tellement parlé de vous. Chloé m'a tellement parlé de vous.
Tes parents dans Pop, etc. Mes invités sont Vincent Delerme et Christophe Comte ce soir.
Pendant la première scène, je regardais sur le côté pour essayer de comprendre comment ses cheveux étaient noués. Pendant la deuxième scène, en fait, j'imaginais mes vacances dans deux ans sur la plage de Pénaudet.
Pop, etc. avec Valley sur France Inter.
Je crois que j'achève ce soir Vincent Delerme. Il est totalement... Qu'est-ce que vous avez dit, c'est... Je fais la promo pour mon premier album.
Ouais, ça se fait un drôle d'effet. Mais c'est... en même temps, c'est drôle parce que c'est un disque qui, a été... enfin, qui m'a donné une super vie par rapport à ce que j'espérais faire, c'est-à-dire faire des spectacles et tout ça. Mais il contenait une énergie qui a moins eu sur les albums suivants, parce que qui est plus une énergie de scène, quoi. C'était des chansons vraiment, il y a presque un truc un peu café-théâtre dans tes parents. Si à la limite tes parents, je l'aurais fait façon grand corps malade sans musique, presque ça aurait été la même chose quasiment. Alors c'est pas que j'aime pas la mélodie, mais c'est vraiment le texte était très 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 devant, quoi. Donc c'était ça que les gens voyaient. Et après, quand ça m'arrive toujours de faire des chansons comme ça, un peu plus facile d'accès, mais souvent c'est des chansons que j'ai tendance à garder pour la scène parce qu'elles ont plus une énergie comme ça, voilà.
Vous parlez de la scène, encore en enchaînement, que vous me donnez, Vincent Delerme, vous avez fait beaucoup de scènes, c'est l'endroit où vous vous sentez le mieux. Est-ce que vous vous souvenez d'une scène européenne, Place de Clichy, à Paris, à cette époque-là?
Ouais, vraiment, parce qu'en plus, on passait avec Jeanne Chéral, on faisait une heure, mais du coup, il y avait des spots sur France Inter, tous les jours, qui annonçaient le spectacle. Et moi, ça, c'était... Le spectacle a commencé le jour de la sortie de l'album, donc on est passé directement d'un truc où... Bah, tous les jours, deux fois par jour, il y avait ces annonces. Avec, donc ça me semblait complètement incroyable, quoi.
Bonsoir, Jeanne Chéral.
Bonsoir.
Comment allez-vous?
Bah, très bien, très bien. Salut Vincent.
Salut Jeannette.
Alors, j'ai fait des surprises parce que je n'ai pas dit à Vincent ni à Christophe Comte d'ailleurs que vous alliez être avec nous un tout petit peu ce soir, parce que je savais que vous avez fait beaucoup de scènes ensemble, et particulièrement l'européenne, c'était à l'époque de la sortie de l'album de Vincent chez Tôt ou Tard, et le vôtre aussi 12 fois par an. Comment c'était ce partage?
Bah, c'était, bah, Vincent disait que c'était magique. Enfin, c'est vrai que nous, on démarrait, on partait de rien, quoi. Et on jouait tous les soirs dans une super salle, avec des loges qui étaient en sous-sol. Enfin, ça a été assez fort, hein, comme rencontre et comme démarrage. Enfin, on en a un bon souvenir. D'ailleurs, on s'est rendu compte que ça faisait déjà plus de 10 ans qu'on avait fait ça, et ça donne un méchant coup de vieux, quoi.
Ah non, il faut pas, c'était...
Ah bah si, quand même.
Vous avez fait tellement de choses depuis, Vincent.
Non mais c'était vraiment spécial, en plus moi j'avais la chance de jouer en premier, donc du coup je pouvais profiter de... Enfin toutes les chansons que chante Jeanne dans ce spectacle-là, c'est drôle parce qu'évidemment au début on chante, et elle et moi on a chanté des chansons au début, maintenant qu'on assume plus trop. Et moi j'aime bien les rechanter à Jeanne régulièrement, celle qu'elle assume le moins.
Les noms, on peut avoir les titres des chansons.
Il y a un trait danger, non?
Si, un trait danger, si
c'est le couteau.
Le couteau de Théodore Botrel. Voilà.
Donc, j'ai pas bien compris. Qui était la tête d'affiche dans cette affaire?
Il y en avait pas. On était censé inverser au départ. Et puis, finalement, je suis passé tout le temps en premier. Et Jeanne, je faisais une heure et Jeanne faisait une heure après.
Ouais, parce que moi, je suis plus nocturne, disons.
Voilà, c'est ça. C'est un côté plus pépère.
Alors, Jeanne, est-ce que c'était le temps béni de cette nouvelle chanson française qui était sur toutes les lèvres? Alors, est-ce que c'était une étiquette pour nous rassurer, nous, les journalistes, ou l'avez-vous ressenti en tant que telle, en tout cas, cette camaraderie?
Une camaraderie, ouais, il y en avait une, forcément. Il y en a toujours une, d'ailleurs, mais des étiquettes journalistiques, oui, ça me paraît... évident, on n'était pas du tout, il y a 10 ans, on n'était pas du tout révolutionnaire dans notre manière de faire de la chanson, mais il y a eu comme une sorte de petit mouvement, quoi, de gens de notre génération qui se sont remis à chanter en français, dans des formules souvent hyper légères. Vincent et moi, on était tous les deux en piano-voix, donc ouais, il y a eu comme peut-être une sorte de petit mouvement, quoi.
C'est vrai qu'on avait, avec Jeanne, beaucoup ce discours-là tous les deux. D'ailleurs, c'est curieux, parce que moi, j'étais le premier à dire, mais on a d'être gêné par l'étiquette nouvelle chanson, ouais. Parce qu'on avait beaucoup aimé d'autres chanteurs, on était venu à la chanson par ça. Et du coup, c'est un truc que je ressassais tout le temps. Je me faisais un peu l'avocat du diable là-dessus. Et Jeanne, j'ai l'impression que finalement, je crois que c'est le cas pour moi aussi. On est parti de quelque chose qui était un peu... pas une sorte de mimétisme, mais enfin une sorte d'héritage, et puis après, ayant envie d'aller un petit peu ailleurs aussi.
Ouais, forcément. Complètement.
Alors, en préparant pour cette émission, Vincent Deléon et Jeanne Charal, j'ai vu dans 2 articles que vous étiez tous les deux comparés à Linda Lemay. Alors, qui de vous deux en réclame? Jeanne?
Oh bah, Jeanne, elle kiffe grave.
Non, mais moi, c'est... tous les deux, ça m'étonne vachement.
Oui.
Mais qui a écrit ça?
Je dirais pas les noms. Il n'est pas moi, devant moi, c'est pas Christophe Comte.
Non, mais c'est vrai qu'il y avait un truc un peu qui était... Il y a eu ce phénomène aussi, quand c'est, encore une fois, cette génération est arrivée, qu'il y avait un côté un peu... il y a des gens, je ne sais pas comment dire, il y a un public qui est resté fidèle, qui a suivi, continue de suivre Jeanne, qui m'a suivi moi aussi après, dans les années 15. Mais au début, il y avait un côté, pas réac, mais presque d'un truc de dire « Ah, ben enfin, des gens qui ont du texte, enfin... » Et ce qui était le ressort de gens comme Linda Lemay, il me semble... Et donc, c'était pas un malentendu, mais il y avait un petit truc un peu comme ça, quoi. C'est pas des bonnes raisons d'aimer un chanteur, de dire « Ah bah lui, enfin, je comprends ce qu'il dit, enfin, il a une bonne syntaxe. » Enfin, c'est pas ça qui fait...
enfin, il articule.
Qui fait une bonne chanson, mais il y avait un petit phénomène comme ça, et il y avait heureusement aussi autre chose, mais il y avait aussi ça.
C'est vrai.
Jeanne Chéral, vos projets, Jeanne?
Je viens de terminer un album, là, qui sort en début d'année prochaine.
Et sur quel label?
Chez Barclay.
Toujours chez Barclay, parce que vous étiez aussi à cette époque-là dans l'écurie tôt ou tard.
Ouais, on faisait tout pareil, Vincent et moi.
Ben oui.
C'est-à-dire?
Bah tout pareil. Mais on était dans la même boîte de disques, dans la même boîte de tournée. On démarrait ensemble, quoi.
Ah, ouais, c'est vrai.
Et puis, vous avez fait de la scène, comme je vous ai dit. Jeanne Chéral qui est montée sur scène avec Albin de la Simon et Vincent Deléon pour chanter un titre d'Anne Sylvestre. Les gens qui doutent, c'était un trio extrait de Favorite Songs de Deléon. Merci beaucoup, Jeanne, de nous appeler si tardivement ce soir dans Pop, etc.
Avec plaisir. Je t'embrasse, Vincent.
Oh bah pareil, pas le
à
choix.
Très vite.
Hein. Bah, salut, Jeanne.
À très bientôt, Jeanne.
Ouais, à bientôt. Bonsoir.
J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent, que parfois ils nous semblent capables de juger. J'aime les gens qui passent moitié dans leur godasse et moitié à côté.
J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime ceux qui paniquent, ceux qui sont pas logiques, enfin pas comme il faut. Ceux qui avec leur chaîne, pour pas que ça nous gêne, font un bruit de grelot. Ceux qui n'auront pas honte de n'être au bout du compte que des ratés du cœur. su dire, délivrez-nous du pire et gardez le meilleur. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui n'osent s'approprier les choses, encore moins les gens, ceux qui veulent bien être qu'une simple fenêtre pour les yeux des enfants, ceux qui sans oriflamme, les daltoniens de l'âme, ignorent les couleurs, ceux qui sont assez poires pour que jamais l'histoire leur rende les honneurs. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui doutent, mais voudraient qu'on leur foute la paix de temps en temps, et qu'on ne les malmène jamais quand ils promènent leurs automnes au printemps. Qu'on leur dise que l'âme fait de plus belles flammes que tous ces tristes culs, et qu'on les remercie, qu'on leur dise, on leur crie merci d'avoir vécu.
Merci pour la tendresse, et tant pis pour vos fesses qui ont fait ce qu'elles ont pu.
Vincent Delerme, Jeanne Charal et Albin de la Simone, non pop, etc. Je continue ma conversation avec Vincent Delerme et Christophe Comte qui est là aussi. On est ravis de l'avoir à côté de nous, tout sage comme ça. La scène, on a parlé un tout petit peu. Alors, vous avez commencé dans les petites salles, on a dit, la Limonaire, les Déchargeurs, l'Européenne, ça finit par grossir, le Bataclan, la Cigale.
On s'arrête là, j'ai compris. Les énigmes, ouais. Les trucs comme ça.
Ouais. Pas encore, vous auriez pu peut-être.
Ouais, sur le premier, oui, sûrement, mais c'était un peu ça aurait été un peu ridicule parce que j'étais piano-voix, c'était un truc un peu très, très intime comme ça, donc voilà.
Donc, La Cigale, il y a une super DVD qui existe. J'y étais. D'ailleurs, j'étais juste derrière vos parents.
Ouais, mais tous les gens qui sont. Comme mes parents sont là très souvent, finalement, La Cigale. J'ai l'impression que tout le monde est derrière mes parents.
Mais j'y étais et ils étaient
mais
tellement fiers.
Aussi,
ah oui, non, mais c'était adorable parce qu'ils étaient vraiment là, fiers. Ils applaudissaient, ils ressentaient que c'était la première fois. Non, mais ça m'a touchée, je trouve, voilà, d'avoir le soutien des parents. Et de toute façon, j'ai réalisé que vos parents avaient quand même une haute idée de la chanson. Parce que, par exemple, Gainsbourg disait que c'était un art mineur, mais ce n'était pas du tout le cas dans votre famille, Vincent.
Non, non, il prenait ça très au sérieux. Mon père, évidemment, écrivait des bouquins et en même temps plaçait ça presque au-dessus du reste. Il écrivait des chansons aussi, lui. Puis c'était effectivement un truc qui était très présent. Ouais.
Alors, c'est presque aussi important que la chanson, j'ai l'impression. Je veux dire, c'est vrai qu'on dit toujours qu'il faut le voir sur scène, en tout cas au début, et maintenant ça commence à être common knowledge, qu'il faut vous voir. Il faut aller voir Vincent Delerme sur scène.
Ah bah c'est évident. Ouais.
Voilà, on a dit la même chose de Benabar par ailleurs.
Oui,
j'ai jamais vu sur scène par rapport.
C'est pas évident du tout pour moi.
J'ai pas vu sur scène Benabar. En tout cas,
moi, j'ai pas essayé hier soir sur la télé, vous auriez dû.
Ah, il était, ouais. Je savais pas. Mmh.
Je faisais tardivement, je suis tombé là-dessus. Ouais.
Ah oui, ok.
Enfin bon,
on n'est pas là pour casser de Benabar.
Non, mais Delerme sur scène, c'est vraiment là pour le coup. C'est un autre artiste, c'est le même, mais il y a la dimension burlesque qui apparaît peut-être pas forcément sur le disque. Il y a ce qu'il raconte entre les chansons, qui sont quand même à la fois des scénettes qui peuvent paraître parfois totalement farfelues. Et qui souvent se termine par un truc où on est un peu interloqué, quoi, parce qu'il y a des choses très profondes qui sont dites. Il y a aussi une mise en scène. Enfin, je me souviens de ce concert à l'Olympia avec les films, qui était extrêmement beau, enfin très élégant. Et puis il y a des chansons inédites. Il y a des choses qui n'existent que sur scène. Et surtout, alors au-delà de ça, je pense qu'on peut pas se rendre compte de l'importance de Delerme. Pour les gens, alors c'est toujours un peu démagogue de dire ça, mais moi j'ai rarement vu des concerts, et des concerts français notamment, où les gens sont autant imprégnés par ce qu'ils voient. Enfin, j'ai rarement vu des gens qui connaissaient autant les morceaux, mais pas bêtement en tapant dans les mains comme à Taratata, même si ça arrive, avec vraiment une espèce de truc hyper perso, parce que je pense que chaque personne, avec ses histoires, ses aventures un peu différentes, à un moment, il y a un espèce de truc qui se produit, quoi. Je sais pas, un éclair, un truc un peu nostalgique, un peu... ça résonne de manière très profonde et très profondément chez des gens de catégories sociales très très différentes, et c'est ça qu'on sent vraiment dans les concerts de Vincent.
Je propose d'écouter un extrait de ce DVD de La Cigale. C'est du pur délire, avec tous les gens, comme dit Christophe, qui participent. On se demande vraiment, c'est comme The Rocky Horror Picture Show à l'époque, on savait exactement quand il fallait sortir le riz, quand il fallait sortir l'eau, quand il pleut, etc. Alors, il y a un petit à côté, en plein milieu d'une chanson, en l'occurrence, Les Filles de 1976.
Odile Pontier, Christine Richard, Séverine Carpier, Valérie Liard, Mathilde Lerut. Mathilde Lerut, oui. En fait, ce qui s'est passé avec Mathilde, c'est qu'elle était avec nous à l'école les trois premières années, CPCE1, CE2. Mais vraiment, c'était une fille... Une fille. Et alors, je me souviens, il y avait eu un anniversaire organisé chez elle, enfin chez ses parents. Et il y avait eu une sorte de... On a vu affaire une pêche au cadeau. Une sorte de... Alors, ça consistait à attraper des paquets qui étaient enveloppés dans des vieux papiers cadeaux avec de la cordelette autour. Et on savait pas ce qu'il y avait dedans. Hop, on pêchait, puis c'était la surprise. Alors, moi, il y en avait eu un des cadeaux qui était plus gros que les autres. J'avais... plus gros que les autres ? Alors j'avais visé, puis je l'avais eu, et à l'intérieur il y avait plein d'autres emballages, et puis à la fin on arrivait à un truc très plat, comme ça, à peu près grand comme ça, et plié comme un Kleenex en fait, et c'était transparent pour se mettre sur la tête s'il pleut. Et donc elle m'avait demandé de le mettre, voilà. Alors, je disais qu'elle était avec nous les trois premières années, parce qu'après elle est partie, Et alors, non, attendez, c'est pas fini. Alors, on reprendra la chanson après. Il y a un garçon dans la classe qui a eu l'idée de lui demander l'adresse. On était en Normandie et elle partait vers Paris. Il a eu l'idée, il s'appelait Rodolphe Mérieux, de lui demander l'adresse de l'endroit où elle allait, pour pouvoir garder le contact. Et au début de l'année qui a suivi, il lui a envoyé une lettre dans laquelle il lui demandait, comme ça, après coup, de quel garçon dans la classe elle avait été amoureuse quand elle était avec nous. Et alors, d'après Rodolphe Mérieux, elle aurait répondu Rodolphe Mérieux.
Je peux pas m'empêcher de chanter. C'est un extrait de Vincent Delerme à La Cigale. Vincent Delerme, Christophe, je sais pas, ça fait mourir de rire, même là, on vous voit pas. Moi, je vous vois en train d'écouter très sérieusement, d'ailleurs.
Évidemment.
Vous êtes super sérieux.
C'est très important, tout ce que je dis dans cette histoire.
Bah, bien sûr.
Le message social, tout.
Oui, c'est ça, c'est toujours éternel. Alors, quelle part d'impro, improvisation
je suis pas très bon pour les impros. En plus, j'ai vu des chanteurs quand j'étais plus jeune, justement, qui faisaient un peu semblant d'improviser des trucs. Puis en fait, tu les vois deux fois, ils font exactement le même mot et tout. Je préfère avoir pas caché que c'est très écrit, enfin que c'est assez précis. Puis du coup, ça permet d'être à peu près disponible si... S'il se passe un truc, là en l'occurrence quelqu'un qui rigole ou quand il y a un truc qui survient, mais sinon, d'une façon générale, les spectacles sont plutôt assez écrits. Je suis pas Higelin là-dessus.
Et oui, des 3h30.
Oui, il peut partir très loin.
Oui, oui, qui des fois est éprouvant. Le seul que je... Et je respecte totalement Jacques Higelin comme performeur, et c'est fabuleux. Mais c'est vrai que c'est dur, des fois, de rester 3h30. À part Paul McCartney, c'était pas mal, 3h30.
Mais il parle moins, quand même. Hein.
Ouais, oui, il parle moins. Meilleur souvenir sur scène, est-ce que vous en avez? Est-ce que...
Pas trop, c'est bizarre, on se souvient pas très précisément des spectacles. Après, c'est plus souvent des souvenirs de la dernière date des tournées, parce que voilà, c'est des trucs très galvaudés, de dire la relation avec l'équipe technique et les musiciens et tout ça, mais de fait quand même, quand tu viens de passer un an à prendre des trains, à dormir de partout avec les gars qui t'accompagnent et tout, c'est toujours quelque chose de spécial quand ça s'arrête.
Oui, il y a ce bouquin que vous avez sorti, ça s'appelle 23 janvier au 18 juillet 2009, qui est magnifique, un peu très Martin Parisien, sans les gens dedans, parce qu'il y a beaucoup de lieux, mais il n'y a pas les personnages dedans. En tout cas, ça, c'était une tournée.
C'est une tournée, c'était aussi parce que, pour répondre à cette question, qui est souvent, les gens te demandent comment c'est en tournée, et puis, d'un côté, il y a plein de gens qui imaginent que c'est tu vois que c'est le champagne tout le temps et de la coke et que c'est dingue, c'est la folie. Et de l'autre côté, des gens qui disent ouais, mais ça doit être quand même un peu tout le temps pareil, à Béziers, à Dijon, machin, vous refaites le même spectacle. Et c'est évidemment ni l'un ni l'autre. C'est une vie qui est vraiment spéciale avec moi, j'adore ça. Il y a beaucoup effectivement de photos vides,
très
de théâtre vide,
ouais.
De tout ça, parce que c'est un climat quoi, d'arriver, de sentir. Et puis il y a des codes, on parlait d'Higelin, très souvent, si Higelin a joué la veille, on te dit « Ah ouais, mais c'était génial, il est resté avec nous jusqu'à 4h du mat, et tu sens que toi, on est en train de coucher à 3h, tu vas être vraiment hyper rabat-joie, et il va falloir battre leur corps. » Bon, voilà, il y a toute une codification comme ça de la tournée. Ouais.
Alors, vous êtes metteur en scène, dramaturge, photographe, auteur d'un livre CD pour enfants qui s'appelle « Léonard, insensibilité à gauche, aux actes sud et tôt ou tard », et beaucoup de projets, dans l'ordre, parce que ça arrive là, une expo au 104 dans le cadre d'État Limite, une expo multimédia qui s'appelle Ces jours-là.
Ces jours-là, c'est en fait, j'ai photographié des gens en fait, de là où j'habite, ça donne sur une cour d'un gymnase qui sert de bureau de vote. Et du coup, le 6 mai de l'année dernière, le jour du deuxième tour de l'élection présidentielle, j'ai photographié et filmé des gens. Et après, j'ai recueilli pas mal de témoignages comme ça de gens en leur demandant à quoi ils associaient des souvenirs de journée électorale, parce que ça peut être des souvenirs politiques, mais c'est aussi beaucoup de gens qui peuvent dire c'est le jour où j'ai embrassé telle personne. Et puis voilà, parce que c'était pour dire aussi que ce jour-là, où il y a a priori un projet global très important, très sérieux, finalement, même en allant voter, en étant très investi là-dedans, on est quand même toujours un peu sur soi et un peu sur un truc un peu intime. Quoi.
Et puis, bien sûr, un magnifique cinquième album, Les Amants Parallèles, qui sort le 25 novembre chez Tôt ou Tard. Peut-on dire que c'est un album concept aussi bien dans sa réalisation que dans ce sujet de...
Ouais, ouais. Oui, c'est une histoire d'amour, donc c'est... qu'on suit, c'est un truc vraiment de très tarte à la crème au cinéma, un garçon qui rencontre une fille au début du disque, et puis ça m'intéressait de faire ça sur un album, et du coup d'avoir ce climat peut-être un peu comme une bande originale. Et puis par ailleurs, du coup, pour avoir un climat spécial, on a décidé de le faire qu'avec du piano, avec un arrangeur qui s'appelle Clément Ducol, qui m'a proposé cette idée, qui partait du fait d'utiliser beaucoup de pianos préparés, c'est-à-dire qu'on met des trucs dans les pianos, on les transforme, on fait les percussions dessus, on génère des sons comme des cordes avec des archets dans les cordes du piano. Et sur le papier, j'ai un peu peur que ce soit un peu Pierre Boulez, quoi, un truc un peu musique contemporaine, un peu difficile d'accès. Et c'était super de bosser avec Clément, parce qu'il en a fait quelque chose d'assez pop, finalement. Voilà.
Un mot, Christophe Comte, pour décrire ce nouvel album que vous avez aussi eu la chance d'écouter comme moi.
Un mot, alors...
Déjà, ça fait trois.
Oui, trois. Non, j'étais encore une fois bluffé. Pour moi, Delerme, c'est quelqu'un qui invente aussi des formes de chansons qui n'existaient pas avant. Et là, pour le coup, c'est piano préparé, tout en restant sur un fil narratif quand même très, voilà, très profond, très tendu. Voilà, c'est assez étonnant. Et c'est surtout très, très, très émouvant, enfin, par bien des côtés, et notamment à travers cette chanson
que j'ai choisie, comme...
que vous avez choisie, ouais. Qu'on aurait choisi tous, je pense, parce qu'elle résonne, encore une fois, cette résonance des chansons de Delerme, pour des tas de gens qui appartiennent à une génération qui a connu la Hacienda de Manchester.
Voilà, c'est la plage que j'ai choisie, parce que j'avais la chance de dire, prenez n'importe quelle chanson, et c'était la plage d'Ish, ça s'appelle Hacienda. Avec cette je ne sais pas quoi de Vincent Delerme. C'est dans Pop, etc. ce soir. Hacienda, très bel extrait du nouvel album de Vincent Delerme, Les Amants Parallèles, qui sort le 25 novembre prochain chez Tôt ou Tard. Merci de ce cadeau, parce que ça sort dans plus d'un mois.
Avec
dans,
plaisir.
C'est magnifique. Première fois que vous avez entendu la radio, mais
ouais,
me dites-vous.
C'est toujours une étape... bon, c'est évidemment, ça tranchait avec les chansons du premier disque, du coup. Et c'est toujours un truc émouvant, excitant. C'est une autre vie, quoi. Il y a tout ce qu'on génère en studio. Après, l'été passe, on l'écoute pendant les vacances. Et puis là, voilà, c'est la rentrée avec Vali et on entend le truc dans le studio. Donc c'est avec marqué France Inter partout autour et c'est chouette.
C'est chouette pour nous aussi. Et 25 ans à la sortie de premier album à peu près. Et là, la quarantaine qui frise, mais pas encore. Mais je me demande, l'album de la quarantaine, ou est-ce que ça, c'est d'autres sujets
Ah, écoute,
à venir.
Pas ce soir.
Ok. Merci mille fois, Vincent, d'être venu ce soir. Vraiment, ça me fait honneur.
Christophe aussi, je pense qu'on est tous un peu émus à l'écoute de cette chanson, en tout cas. On vous lit dans les Arocs et on vous entend deux fois par semaine, le mardi et le jeudi, sur France Inter, dans Comment nous parle, avec Pascal Clark. Merci aussi à Jeanne Chéral, son nouvel album sort en janvier chez Barclay. Toutes les infos liées à cette émission sont sur notre site, tapezfranceinter.fr. Vous pouvez la réécouter en podcast ou par streaming. La semaine prochaine, un coup de projecteur sur la Blaxploitation. Pop, etc. a été réalisé par Eliane Girard avec Maxime Ingrand. Elle a été préparée par Corinne Valente. La programmation musicale est signée Djoubaka. Très belle nuit. Je vous retrouve demain soir à 20h pour Live Midou. Avec sur scène en studio 105, Brigitte Fontaine, Sexy Sushi, Agnès Obel et Girls in Hawaii. Je ne vous raconte pas le cocktail juste après les infos. La lune a des oreilles avec Muriel Pérez.